La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. S'ils étaient de simples romans à énigmes, les livres d'Agatha Christie ne nous plairaient pas autant. Il y a en effet, derrière le plaisir de découvrir le meurtrier ou la meurtrière, plusieurs doubles fonds à ces romans, dans l'ordre de l'histoire, de la psychologie ou de la littérature. Elle est en effet née dans le monde d'hier, celui d'avant la Première Guerre mondiale, qu'elle a connu et dont elle a ressenti la blessure. Elle a aussi traversé la Seconde Guerre mondiale et cet arrière-fond historique n'est peut-être pas à négliger. Agatha Christie est également une femme qui a très tôt aimé lire et dont les romans sont des études de caractère, ce qui fait d'elle une écrivaine à part entière et non pas une fabricante à la chaîne de livres à succès. Nous en parlerons dans l'épisode 2 de cette série en compagnie de François Rivière. Elle est par ailleurs une femme à la psyché complexe dont le caractère, peut-être un peu paranoïaque, se retrouve dans ses ouvrages, ainsi que nous le dira Sophie de Mijolamelor au cours de notre troisième épisode. Enfin, dans la quatrième émission, nous parlerons d'abord de la place du droit et de la loi dans son œuvre, ce sera avec le juriste Nicolas Barreit, puis de la question de l'imposture dans ses textes, cette fois avec Maxime Decoux. Et aujourd'hui ?
C'est épouvantable. Je n'ai jamais été douée pour les discours. D'ordinaire, quelqu'un vient à ma rescousse et le fait à ma place. Mais ce soir, personne ne vient m'aider. Je vais devoir le faire moi-même.
La timide Agatha Christie, mais était-elle seulement timide? C'est peut-être l'un des multiples miroirs déformants qu'elle nous tend d'elle-même. En tout cas, c'est un premier mystère que nous allons chercher à éclaircir, car aujourd'hui, nous racontons sa vie avec vous, Marie-Hélène Bellac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, autrice de travaux sur la Révolution française, sur Napoléon, sur les animaux également, puisqu'on vous doit une histoire des animaux célèbres aux éditions Perrin. Perrin, où vous avez aussi publié donc une biographie d'Agatha Christie sous-titrée « Les mystères d'une vie ». C'était en 2019. Alors pour commencer, j'aimerais donc entendre votre avis sur cette question de la timidité d'Agatha Christie. Est-ce qu'elle vous paraît feinte ou est-ce qu'elle était bien réelle ?
Je ne suis pas certaine qu'Agatha ait été si timide que ça. C'était une petite fille réservée, très solitaire d'ailleurs. Elle avait peu d'amis, elle était la troisième d'une famille qui comptait déjà une grande sœur, Madge, et un frère, Monty. Et elle n'a pas été à l'école, ou très peu. Donc, elle vivait très, je ne dirais pas repliée, mais dans un univers relativement clos dans lequel elle se plaisait. Et c'est vrai qu'elle s'est fait une réputation de timidité. En fait, quand on examine sa vie, pendant sa vie de jeune fille notamment, et de jeune épouse, c'était une femme au contraire qui aimait aller à la rencontre des autres. Quand elle était jeune, elle aimait danser. Plus tard, quand elle a fait le tour du monde, ce n'était pas un tour du monde, c'était le tour des dominions britanniques avec son jeune époux, c'était elle qui, dans le couple, allait de l'avant, rencontrait, allait dans les parties. Et je pense que, en fait, ce qu'on appelle sa timidité, c'est une réserve et surtout son envie de se protéger après cette fameuse disparition en 1926 qui l'a tellement traumatisée.
Alors, ce qu'on appelle sa timidité ou ce qu'elle appelle sa timidité, parce que elle se caractérise elle-même dans son autobiographie. Elle a rédigé ce texte pendant d'ailleurs de nombreuses années. C'est sans doute le texte qu'elle a passé le plus de temps à travailler et à retravailler. Elle se présente aussi comme une personne docile quand elle écrit, par exemple, dans cette autobiographie qu'elle a dû être un chien dans une vie antérieure. D'ailleurs, parce que, je cite, « si quelqu'un entreprend quelque chose ou se rend quelque part, il faut que je l'accompagne et que j'en fasse autant. »
Je pense que c'est aussi une façon de se protéger. Même si de fait, elle n'aime pas la foule, elle n'aime pas les interviews, elle les refuse. Mais elle aime préserver sa vie privée. Et du coup, elle a tendance à peut-être aussi surévaluer ce côté timide et cette réserve. Mais en fait, ce n'est pas non plus aussi, elle dit effectivement, je suis comme un chien. Et c'est une métaphore qui lui plaît beaucoup parce qu'elle aime les chiens, elle a eu des chiens toute sa vie. Elle dit au moins, un chien ne trahit jamais, il est toujours fidèle. Donc c'est vrai que elle a tendance comme ça à se mettre un petit peu à l'écart. Mais je pense qu'au fond, elle va de l'avant. Enfin, je ne pense pas qu'elle va de l'avant. C'est une femme qui empoigne la vie à pleine main.
Et sa vie a été trépidante.
Pas du tout une femme qui reste en retrait. Pardon ?
Vous diriez que sa vie a été trépidante ?
Je ne sais pas si je dirais le mot trépidant. Je dirais que ça a été une vie très remplie, très riche. Elle disait, elle parlait du métier de vivre. Et effectivement, elle s'est appliquée à faire de sa vie ce qu'elle voulait en faire. De toute façon, Agatha n'a jamais fait que ce qu'elle voulait faire. On le voit dans ses relations par rapport à sa fille, dans sa volonté aussi de réussir son deuxième mariage. Elle est un chien, enfin elle est un chiot, c'est aussi une métaphore qu'elle utilise beaucoup dans son courrier avec Max, avec son deuxième époux. Mais en fait, elle n'est pas si docile que ça, voilà ce que je voudrais dire.
Et notamment dans son autobiographie, est-ce que vous avez l'impression qu'elle raconte ce qu'elle a envie de raconter et peut-être pas uniquement ce qui s'est passé ?
Oh oui, bien sûr. Elle donne une image relativement lisse. Elle ne parle jamais de ses défaites. Par exemple, je pense à ce qu'elle raconte sur son œuvre. Elle a eu quand même, elle a eu de très beaux succès, mais dans le monde, enfin dans le domaine du théâtre, elle a aussi connu des échecs. Et cela, elle les passe ou presque sous silence. De même, ce qui est caractéristique dans son autobiographie, c'est qu'elle ne parle pas de sa disparition. Là aussi, c'est une page de sa vie sur laquelle elle met un couvercle. Elle ne veut pas qu'on en parle parce qu'elle la juge honteuse, en fait. Hein. Et du coup, elle ne montre dans cette autobiographie que ce qu'elle veut montrer, ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que elle dit à un moment, voilà, en écrivant ma vie, eh bien, je couperai l'herbe sous les pieds à tous ceux qui voudront écrire mon histoire après ma mort. Bon, alors évidemment,
vous l'avez pris pour vous alors. Cette phrase, vous l'avez pris pour vous.
Je l'ai prise pour moi, oui, d'une certaine manière, parce que je me suis dit, quand même, il y a des choses qui se cachent derrière, voilà. Et donc, c'était tout l'intérêt de partir à la découverte de ce qu'elle a été. À travers les sources diverses, mais aussi à travers son œuvre, parce qu'elle met beaucoup d'elle-même dans son œuvre, malgré sa volonté de réserve.
Alors justement, on va le voir avec vous. Vous avez déjà lancé quelques fusées qui ont traversé la vie d'Agatha Christie, mais recommençons les choses par le début. Tout commence à Torquay, Marie-Hélène Baylac, mais qu'est-ce que c'est exactement que Torquay ?
Torquay, c'est une charmante station balnéaire qui était très en vogue, qui est située au sud-ouest de l'Angleterre, sur la côte du Devon. C'est là qu'Agatha Christie, enfin que la petite Agatha, naît le 15 septembre 1890. En fait, ses parents, sa mère avait acheté une maison, un peu par hasard, elle avait un coup de cœur, pour une maison à Torquay, une ville qu'elle connaissait bien. Et ses parents devaient repartir pour l'Amérique, puisque son père était d'origine américaine. Et puis, ils sont restés à Torquay. Et c'est donc là qu'en 1890, Agatha est née.
Alors, il faut peut-être préciser que cette maison a été achetée par sa mère, alors qu'elle n'était pas censée, sa mère, acheter la maison. Elle devait la louer.
Tout à fait. Elle pensait la louer, parce qu'elle pensait repartir, enfin, elle pensait partir aux États-Unis. Et puis, Marie et elle-même s'y sont tellement plu qu'ils sont restés à Torquay. Et d'ailleurs, Agatha a conservé cette maison jusqu'en 1938.
Mais il faut dire quand même que ça parle un petit peu de qui est cette mère. Parce que on comprend au fond que, de manière un petit peu impulsive, elle a choisi d'acheter cette maison alors que ça n'était pas prévu et que son père, Agatha Christie, était aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit d'elle, de cette mère ?
Alors, c'est une femme assez fantaisiste, enfin intelligente, ouverte, et finalement assez peu conformiste. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle ne mettra pas Agatha à l'école, parce qu'elle décidera que ce n'est pas bon pour elle. Et c'est très important parce que du coup c'est une femme qui a été très à l'écoute de sa petite fille. Elle a très tôt senti qu'Agatha n'était pas exactement comme les autres. Et elle l'a ouverte à la littérature, on verra peut-être comment, elle l'a ouverte à l'écriture, elle a respecté toujours sa sensibilité. On peut peut-être, même si c'est pas au début, rappeler un épisode qui se place alors que Agatha et ses parents se trouvent en France, près de Pau. Et Agatha suit son père et sa grande sœur dans une excursion. Et tout d'un coup, le guide voit un papillon et l'épingle sur la veste d'Agatha. Et Agatha ne dit rien, elle est horrifiée, c'est une petite fille. Mais elle voit cet animal qui bat des ailes, elle tremble, elle pleure. Et après, elle pleure tout le long du trajet. Son père et sa grande sœur disent, voilà, on n'aurait jamais dû l'emmener. C'était une mauvaise idée, elle rentre à la maison. Et quand sa mère la voit, elle comprend tout de suite. Elle comprend que c'est le papillon. Et il y a une relation très privilégiée qui s'est établie entre cette mère et sa fillette.
Mais aussi entre la fille et le père, qui est donc un homme finalement assez bonhomme.
Oui, un homme tout à fait charmant. Agatha dira carrément qu'il n'aimait pas travailler.
Il était rentier.
Voilà, il est rentier. Les rentes vont fondre d'ailleurs au fil des années. Donc le matin, il va au club. Il arbitre aussi le club de cricket, il va acheter des antiquités puisqu'il en a les moyens. Le matin, Agatha va le voir, il lui donne des pièces. Avec ça, elle va acheter d'ailleurs de quoi meubler ses maisons de poupées puisqu'elle adore les maisons très tôt. Et puis, c'est lui qui lui apprend les mathématiques. Et ça, c'est important parce que Agatha ne sera jamais bonne en orthographe, mais elle a l'esprit mathématiques. Et ça a certainement une incidence dans la façon dont elle construit ensuite ses romans.
Alors quand même, revenons aussi sur l'histoire de la mère de Agatha Christie, parce que elle-même a vécu un traumatisme dans son enfance, parce qu'elle a été presque abandonnée d'une certaine façon. Elle a été placée chez sa tante. Et donc, elle l'a vécu, elle, comme une mise à l'écart.
Tout à fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que ensuite, elle s'est tellement occupée de ses enfants, parce qu'elle ne s'est pas occupée que d'Agatha. Hein. C'est une femme qui était extrêmement attentive à ce que souhaitait chacun de ses enfants. Elle n'a pas voulu, bien sûr, que sa fille connaisse les difficultés qu'elle avait connues. Et surtout, elle n'a pas voulu elle a voulu être à son écoute. Voilà, je crois que c'est ça qui est très important. Lui permettre de s'épanouir.
Donc c'était une femme qu'on disait un petit peu austère. D'ailleurs, le père d'Agatha Christie reprochait ce trait de caractère à sa femme. Ça peut s'expliquer peut-être par cette enfance difficile dont vous venez de nous parler. Et c'est finalement la rencontre avec celui qui était encore un jeune homme quand la mère de la future Agatha Christie était une enfant qui va constituer un grand changement dans sa vie, Marie-Hélène Bellac.
Oui. Et les époux Miller vont donc constituer un couple, je dirais, qui s'équilibre bien. La mère d'Agatha étant effectivement réservée, mais en même temps assez fantaisiste. D'ailleurs, quand elle achète cette fameuse maison à Ashfield, son mari est tout à fait étonné de cet achat, parce que c'est pas dans ses habitudes. Mais là aussi, Agatha a beaucoup parlé, avec beaucoup de nostalgie, souvent de l'époque victorienne, de la femme à l'époque victorienne, qui était tout entière, prête au désir de son époux, à tenir la maison, mais qui en même temps avait une vraie autorité et une vraie, si elle en était capable, une vraie influence. Et c'était le cas de la mère d'Agatha. Et d'ailleurs, quand son époux décède, alors que Agatha est encore toute jeune, puisque Agatha naît en 1890 et que son père meurt en 1901, la mère d'Agatha va tout faire pour donner une éducation à sa fille de qualité, et elle va toujours trouver des moyens. Par exemple, elle garde la maison d'Ashfield alors qu'elle pense que financièrement elle ne peut pas le faire, puisque comme je disais tout à l'heure, les rentes ont fondu au soleil, qu'elle craint de ne pas pouvoir l'entretenir. Et pourtant, elle va réussir à amener sa fille à Paris pour qu'elle devienne une jeune fille accomplie, notamment en apprenant la musique, en fréquentant le théâtre. Elle va ensuite l'amener faire ses débuts au Caire, puisqu'elle ne peut pas lui offrir des débuts à Londres. Donc vous voyez, à chaque fois, elle trouve un moyen pour faire le mieux pour sa fille.
Quand on me lisait une histoire que j'aimais, je demandais le livre et étudiais les pages qui, d'abord incompréhensibles, finirent peu à peu par prendre sens. Quand j'étais à la promenade, je demandais à Nursie la signification des mots inscrits sur les magasins ou sur les panneaux publicitaires. Résultat, je parvins un jour à lire avec succès un livre appelé « L'ange de l'amour ». J'en fis alors tout la démonstration à Nursie. « Je crains fort, madame, dit-elle d'un ton penaud à ma mère le lendemain, que la petite Agatha ne sache lire. » Ma mère en fut catastrophée, mais le fait était là. Je n'avais pas 5 ans et le monde des livres de contes m'était ouvert. À partir de ce moment, je commandais toujours des livres pour Noël et pour mon anniversaire.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cet extrait de l'autobiographie d'Agatha Christie, lu par Guillaume Gallienne. Marie-Hélène Bellac, sa mère, lui racontait des histoires et pourtant elle ne voulait pas qu'elle apprenne à lire avant l'âge de 8 ans, peine perdue, puisqu'on vient de l'entendre, la petite Agatha a appris à lire toute seule. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu le tableau de cette famille qui compte aussi des gens un peu extra familiaux, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la domesticité et qui ont leur importance, par exemple cette Nursie qui est évoquée dans l'autobiographie?
Oui, alors c'est un personnage central pour Agatha, sa nurse, effectivement, qui la comprend, avec laquelle, enfin qui accepte d'ailleurs que la petite fille se livre à toutes sortes, je dirais pas de facéties, mais par exemple lui noue un ruban dans les cheveux, l'emmène promener, elle la rassure, elle lui raconte des histoires. Et puis il y a un moment, dit Agatha dans son autobiographie, absolument extraordinaire, c'est le soir, Nursie est assise à côté d'elle, elle est censée dormir derrière un paravent, et puis on apporte un plateau avec son dîner à Nursie. À ce moment-là, celle-ci apporte un morceau de viande au bout d'une fourchette et le tend à Agatha. Et Agatha dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur. Donc c'est un premier personnage très important. Il y a un autre personnage qui est très important, c'est Jane, c'est la cuisinière. Alors la cuisinière qui règne, effectivement...
Qui fait des dîners incroyables tous les jours, voilà. Pour 7 à 8 personnes avec 5 services.
Et oui, puisque les parents d'Agatha donc, ont les moyens, on disait son père est rentier, et ils reçoivent très très régulièrement. D'ailleurs, on a retrouvé les menus chinois, comme on disait, puisqu'ils sont calligraphiés avec des dessins qui expliquent l'utilisation de ce terme. Et donc, c'est une cuisine qui fonctionne, je dirais, à plein.
Il faut dire qu'ils reçoivent pas n'importe qui. Hein. Il y a Henry James qui passe,
oui,
Kipling
ouais.
Également.
Oui, oui, absolument. Oui, parce qu'il faut aussi dire que Torquay était une station balnéaire très à la mode. Et donc, surtout l'hiver, quand il faisait froid dans le nord, il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait très bons hôtels, il y avait une grande patinoire, la ville attirait du monde. Et pour revenir à notre cuisinière, à Jane, c'est vraiment un deuxième personnage très important pour Agatha, d'autant qu'Agatha, toute petite, se révèle très gourmande, et elle sera gourmande toute sa vie. Ce qu'elle préférera toujours, c'est... la crème fraîche du Devon, dont elle consomme des quantités. Elle boit même de la crème poupée de lait, qui évidemment peut contribuer à expliquer qu'elle n'ait pas gardé sa ligne de jeune fille très longtemps.
Donc c'est une grande lectrice, en plus d'une grande gourmande, et puis une grande joueuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être par ennui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a 10 ans et 11 ans d'écart entre elle qui est vraiment la petite dernière, puisqu'elle naît quand son père a 44 ans et sa mère 36. Et ses frères et sœurs, Louis Montante, dit Monty, dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis aussi Madge, son autre sœur, Margaret Frary, Madge étant son surnom. Donc il y a quand même forcément un peu d'ennui pour cette petite fille qui s'invente des mondes et des amis imaginaires, voire des animaux imaginaires, Marie-Hélène Berg.
Oui. Tout à fait. Très tôt, elle s'invente un monde complètement imaginaire. D'ailleurs, elle dira que ce monde imaginaire était plus vrai que le monde réel, que en fait, c'était ces personnages qu'elle inventait, notamment, et puis aussi, je dirais, son chien, un canari qu'on lui a offert une fois. Et donc, elle mettait tout ce monde en scène, par exemple Mrs. Green, qui avait 100 enfants, qui avait des noms d'animaux. Et donc, elle se promenait dans le jardin, voire un peu plus loin, près de la forêt. Et là, elle inventait toutes sortes d'histoires à voix haute, ce qui étonnait un peu son entourage, mais justement, pas Nursey. Et Agatha raconte que même adulte, quand elle imaginait ses romans, parce qu'elle commence par les construire dans sa tête complètement, hein, en fait, l'écriture ensuite est presque une corvée. Ce qui est important, c'est la construction intellectuelle. Et elle dit que même à ce moment-là, il lui arrivait de se promener et d'imaginer les dialogues à voix haute. Et si des gens se tournaient sur son passage, eh bien tant pis, ça ne la gênait pas.
Donc l'imagination, on le comprend, est quelque chose de très important. La lecture aussi, alors elle n'avait pas le droit de lire de romans le matin, il fallait qu'elle lise l'Ancien Testament le matin. Chaque chose à sa place et en son temps. En revanche, sa mère aimait bien lui raconter des histoires qu'elle inventait parfois au fur et à mesure qu'elle les racontait.
Oui, oui, oui. Et pas du tout, on lui racontait pas Cendrillon, enfin elle connaissait ce genre de conte, mais sa mère avait des histoires absolument extraordinaires, notamment il y en avait une qui l'avait beaucoup marquée, qui était l'histoire de chandelle empoisonnée. Et alors, très souvent, sa mère se souvenait plus le lendemain de l'histoire, donc on pouvait pas renouer véritablement les morceaux. Oui. Mais c'était aussi ça qui plaisait à Agatha.
Ça lui plaisait, fantaisie. Mais ça l'a traumatisée aussi peut-être. Enfin ça, on en parlera sans doute mercredi dans l'émission consacrée à la psychologie d'Agatha Christie.
Parfois, je me demande ce qui serait passé si j'avais poursuivi ma scolarité. J'aurais progressé, j'imagine. Je me serais totalement investi dans les mathématiques. Matière qui m'a toujours captivée. Je serais alors devenue une mathématicienne de troisième ou quatrième ordre, et ma vie se serait déroulée de façon tout à fait heureuse. Je n'aurais sans doute pas écrit de roman. Les mathématiques et la musique auraient suffi à me satisfaire. Mais elles se seraient emparées de toute mon attention et m'auraient fermé le monde de l'imaginaire. À la réflexion, je crois qu'on est ce qu'on doit être. On peut toujours se laisser aller au petit jeu des « si ceci ou cela s'était produit, j'aurais fait telle ou telle chose ». Ou bien « si j'avais épousé un tel, ma vie aurait changé du tout au tout ». D'une manière ou d'une autre, cependant, nous avons toujours tendance à revenir à notre voie, à notre propre schéma. Car je suis convaincu que l'on suit un schéma, que nous avons un schéma de vie. On peut le magnifier, on peut le réduire au minimum, c'est notre schéma. Et tant que nous le suivons, nous connaissons l'harmonie et la paix de l'esprit.
Agatha Christie était-elle destinée à devenir l'écrivaine qu'elle est devenue? C'est ce qu'elle semble penser, en tout cas dans cet extrait de l'autobiographie, toujours lu par Guillaume Gallienne. Toujours est-il que dans son enfance, elle ne fait pas d'études, elle ne va pas à l'université, et ce qui l'intéresse, c'est autre chose. C'est la musique, c'est la danse, c'est le chant, Marie-Hélène Bellac.
Oui, à tel point que sa mère donc l'emmène à Paris pour parfaire son éducation. Et là, elle va successivement fréquenter trois, disons, pensions, enfin des pensions très haut de gamme, hein, très mondaines, qui accueillent un petit nombre de personnes. Et pendant 2 ans, elle suit un enseignement musical de très haut niveau, au point d'ailleurs qu'elle ambitionne de devenir pianiste et peut-être même chanteuse d'opéra, même si elle va bientôt devoir se rendre à l'évidence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire carrière dans ce domaine. Tout au plus, elle peut être une amatrice de haut niveau, et c'est ce qu'elle sera. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, elle jouera du piano à très haut niveau.
C'est quand même une déception.
Alors, elle dit que ce n'est pas une déception. Je pense que tout simplement, elle s'est tournée les pages. Elle a compris que ce n'était pas son domaine. Et puis, finalement, à 16-17 ans, elle a envie, comme toute la plupart des jeunes filles de son âge à cette époque, d'épouser le prince charmant. Et elle ne pense pas véritablement à une carrière.
Alors, quand même, la musique est présente dans ses romans. Et même cette idée de la vocation manquée se retrouve dans plusieurs de ses livres.
Et notamment, je pense à un de ses ouvrages sous le titre, enfin sous le titre, c'est Musique barbare, mais je voulais dire sous le pseudonyme de Mary Westmacott, puisque elle a écrit plusieurs ouvrages sous ce pseudonyme, dans lesquels elle se livre bien davantage, dans Musique barbare, mais aussi dans Portrait inachevé. Portrait inachevé est en réalité l'histoire de sa relation avec son premier mari.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors finalement, sur la musique plutôt, dans ces livres-là, qu'elle ne dirait alors, pas dans l'autobiographie et sur sa vocation manquée?
Alors sur la musique, ce qu'elle nous dit, c'est que pour elle, c'est ce qu'il y a de... Enfin, c'est un moyen de s'élever. Et par exemple aussi, elle sera une très très grande admiratrice de Wagner. Elle va à Bayreuth à plusieurs moments dans sa vie où elle emmène son petit-fils. Pour elle, la musique fait vraiment partie de presque de l'absolu.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le moment palois de la vie des Miller. Il faut dire que, en effet, ils ont un petit peu moins d'argent parce que le père a des immeubles à New York, mais qui visiblement demandent de l'entretien, qui sont assez mal gérés. Donc, ils sont un petit peu obligés de louer leur maison en Angleterre. Et puis, aller en France, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ils vont s'installer à Pau quelques temps à l'automne 1896. Elle apprend donc le français.
Le français, oui. Avec l'accent du sud-ouest.
Avec l'accent du sud-ouest. D'ailleurs, elle n'est pas toujours contente de cette mademoiselle Moura qui lui fait la leçon, dit-elle, avec une voix criarde. Alors, elle lui fait des grimaces. Sa mère donc n'est pas contente parce que ça ne se fait pas de faire des grimaces, mais elle lui explique que c'est pas grave parce que c'est des grimaces anglaises et pas des grimaces françaises.
Et donc, elle ne les comprend pas.
Voilà.
Oui, mais enfin, finalement, elle trouvera une jeune fille qui viendra avec eux d'ailleurs en Angleterre, qui les suivra en Angleterre, avec qui elle s'entendra merveilleusement. Et c'est d'ailleurs pendant ce séjour à Pau qu'elle commence elle-même à jouer au théâtre, à monter des petites pièces de théâtre. Elle tire le rideau devant le lit de ses parents, et ses parents qui acceptent d'assister à ce spectacle.
Très patiemment, dit-elle.
Oui.
Et également à Dinard, où, pareil, la famille
elle apprend à nager
pendant quelques temps. Alors évidemment, l'enfance très heureuse là que vous nous avez décrite, Marie-Hélène Bellac, de Agatha, prend fin, et notamment avec la mort du père, qui est une mort assez impensable pour la fille qu'elle était.
Oui, parce qu'elle adorait ce père, et puis elle ne pensait pas qu'il allait mourir. La mort, c'était dans les ouvrages, dans les livres.
Il n'était pas très âgé.
Pas dans la réalité. Et puis c'est vrai que c'est un traumatisme parce qu'on s'aperçoit, enfin sa mère s'aperçoit à ce moment-là que ses revenus vont considérablement diminuer, donc elle pense à vendre la maison d'Ashfield, mais ses filles, Madge et Agatha, y tiennent tellement qu'elle décide de la conserver, mais elle réduit considérablement son train de vie. Donc la vie change, comme dit Agatha, d'autant que Madge à ce moment-là se marie et que Monty, son frère, part d'abord en Inde puis en Afrique du Sud. Donc elle dit, nous n'étions plus qu'une femme et sa petite fille. Et donc les liens entre Agatha et sa mère se resserrent encore à ce moment-là, certainement.
On me demande souvent pourquoi j'ai commencé à écrire. Mais je vous dirais qu'en fait, la raison, c'est que je n'ai pas été beaucoup à l'école. Peut-être préciser un petit peu. J'ai fini par aller à l'école quand j'étais à Paris, vers l'âge de 16 ans. Mais jusqu'à cet âge-là, à part un petit peu d'arithmétique, je n'ai quasiment pas fait de classe. Alors, je ne faisais pas grand-chose, mais il faut savoir que les enfants, à l'époque, faisaient beaucoup de choses. Les petites filles faisaient, par exemple, la maison cuisinent pour leurs poupées, ils fabriquaient les cadeaux Noël qu'ils offraient à leurs amis. Aujourd'hui, c'est bien fini depuis longtemps tout ça, on va acheter les cadeaux au magasin. Et donc, je commençais à m'inventer des histoires, parce que je m'embêtais, vous savez, il n'y a rien de tel que l'ennui pour inventer des choses et pour se mettre à écrire. Et de sorte qu'à l'âge de 17 ans, j'avais commencé à écrire déjà des petites nouvelles, et puis des histoires, et puis un roman.
La compagnie des œuvres sur France Culture et cette archive de la BBC qui date de février 1955. Donc à 17 ans, elle commence à écrire des histoires, des petites nouvelles. Puis c'est le moment aussi où elle va commencer à s'intéresser un petit peu à l'idée du mariage. Il y a ce voyage au Caire qui va être le début d'une série d'ailleurs de voyages dans cette région du monde. Mais c'est d'abord sa mère qui l'emmène au Caire avec l'idée que sa fille va pouvoir y faire ses débuts, Marie-Hélène Bellac, et peut-être trouver un mari.
Oui, oui, absolument, parce que sa mère n'a pas les moyens d'une présentation à Londres. À l'époque, il faut que les jeunes filles soient présentées au monde pour trouver un prétendant et ensuite un mari. Et donc, elle a l'idée de l'amener au Caire, ce qui est une très bonne idée, parce qu'à l'époque, le Caire faisait partie de l'Empire britannique, même si ce n'était pas une colonie à proprement parler. Il y avait donc au Caire tout un monde d'officiers, plus ou moins brillants, et beaucoup d'occasions de fêtes. D'ailleurs, Agatha, pendant les 3 mois qu'elle passe au Caire, danse, pas tous les soirs, mais presque. Donc, on lui confectionne des robes, de belles robes, elle est ravie. Elle a, à ce moment-là, d'ailleurs, pas du tout envie d'aller visiter les pyramides ou d'autres sites archéologiques. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les bals. Elle inscrit, d'ailleurs, sur son carnet de bals, avec soin, les différents danseurs qui veulent se présenter à elle. Et elle en revient. Alors, c'est vrai que c'est là, elle raconte qu'un soir, au Caire, en écoutant ce qui se passe à une table voisine, au restaurant, elle se pose une question, justement, d'un roman. Et elle va d'ailleurs écrire un premier roman qui lui a inspiré par ce voyage en Égypte, qui est « Neige sur le désert », qui n'a jamais été publié. Mais ce texte, sa mère lui suggère de le montrer à un ami, qui est en même temps un grand écrivain régionaliste anglais, et Phil Potts lui dit « oui, c'est pas mal », et il lui donne d'ailleurs les coordonnées de son propre agent littéraire, Hugues Massy. Bon, à ce moment-là, ça ne va pas plus loin, mais c'est un premier encouragement, parce que, en fait, on disait Agatha commence à écrire. Elle a commencé très tôt, je dirais même plus tôt, parce que dans la famille Miller, tout le monde écrivait.
Et surtout Madge, la sœur Madge.
Voilà, Madge écrivait des nouvelles,
justement,
qui étaient même publiées.
Justement, à ce propos, écoutons un extrait de l'autobiographie de Agatha Christie.
Ce fut aussi à cette époque que j'eus avec Madge une discussion qui devait porter ses fruits plus tard. Nous avions lu une histoire policière. Je pense, je peux seulement dire je pense car mes souvenirs ne sont pas précis, qu'il s'agissait du mystère de la chambre jaune qui venait de paraître sous la signature d'un nouvel auteur, Gaston Leroux. Il avait créé un sympathique jeune détective, Rouletabille. C'était un mystère particulièrement déconcertant, bien imaginé et construit, du genre que certains trouvent déloyal, ce qui n'était pas exact, car on doit pouvoir découvrir un petit indice habilement caché. Nous en discutâmes longuement en échangeant nos points de vue. Nous tombâmes d'accord que c'était une des meilleures intrigues du genre. Nous étions des connaisseuses en matière de romans policiers. Madge m'avait initiée très jeune à Sherlock Holmes et j'avais suivi ses traces. Enthousiasmée par tout cela, je déclarais que j'aimerais écrire un roman policier. « Je ne crois pas que tu en serais capable, » répondit Madge. « C'est très difficile à imaginer. J'y ai réfléchi. J'aimerais quand même essayer. Eh bien, je parie que tu n'y arriveras pas. » dit Madge. La discussion en resta là. Ce n'était pas un véritable défi, mais des paroles en l'air. Néanmoins, à partir de cet instant, je me suis déterminée à écrire un roman policier. Cela n'allait pas plus loin. Je ne me mis pas à l'écrire tout de suite et n'imaginais aucune intrigue. Mais la graine était semée. Au fond de mon esprit, où l'histoire des livres que je vais écrire à sa place, bien avant que la germination ne se produise, l'idée était implantée. Un jour, j'écrirai un roman policier.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Est-ce qu'on n'entend pas quand même une rivalité sur ce plan de la littérature entre la petite Agatha et sa grande sœur Madge, Marie-Hélène Bellac?
Tout à fait, il y a une vraie rivalité. D'ailleurs, quand Madge produira sa première et son unique pièce de théâtre, Agatha dit qu'elle en est jalouse. Bien sûr, il y a une rivalité, d'autant plus que dans la famille, Agatha était considérée, c'était bien sûr la petite dernière, il y avait 10 ans de différence entre Madge et elle, entre Monty et elle, 11 ans même avec Madge, et donc on la disait, c'était la lambine. La jeune fille brillante, c'était Madge. Donc cette rivalité existait bien. Et donc pour revenir à l'extrait que vous venez de passer, effectivement, Agatha dit là, ce n'était pas un défi. Si, c'était quand même un peu un défi. Et Agatha a le goût des défis. Elle le montrera plusieurs fois dans sa vie. Donc, cette idée d'écrire un roman policier, elle germe, et puis elle va la mettre en exécution, en 1916. On est pendant la guerre, Agatha s'est engagée dès la déclaration de guerre, d'abord comme infirmière, puis ensuite elle a travaillé dans un laboratoire de l'hôpital.
Entre-temps, elle a rencontré son mari, parce que l'écriture arrive un peu en même temps dans sa vie que la rencontre avec Archibald Christie, qui est sous-lieutenant dans l'artillerie. Ils se rencontrent alors qu'il a environ 23 ans.
Et qu'il est aviateur, ce qui fascine Agatha. Et ils se marient, le 24 décembre 1914, donc juste après la déclaration de guerre, au cours d'une permission. Et pendant que son mari se bat sur le continent, Agatha donc travaille à l'hôpital. Et là, dans le laboratoire de pharmacie de l'hôpital, elle passe son diplôme de préparatrice en pharmacie et elle dit qu'elle était entourée de flacons et qu'elle avait de grands moments où elle n'avait rien à faire. Et donc elle commence à penser à ce roman et elle dit tout naturellement, comme j'étais entourée de flacons, de produits dont elle a bien compris que ça pouvait être des produits qui guérissaient mais qui aussi pouvaient empoisonner, eh bien elle va tout naturellement choisir le poison comme moyen de tuer. Oui. Et elle écrit donc ce premier roman qui est premier roman vraiment à succès et qui paraît, qui est la mystérieuse affaire de Steve.
Et c'est l'arrivée aussi de Poirot, du couple Poirot-Hastings, du tandem plutôt que couple, puisqu'elle invente ce personnage à ce moment-là.
Et qu'on retrouvera d'ailleurs tout à la fin dans le dernier livre où Poirot quitte la scène, qui paraît un an avant sa mort.
Alors le couple quand même, Christie, va d'abord fonctionner assez bien. Ils font un enfant, la petite Rosalind. Et comme vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, Marie-Hélène Bellac, la première chose qu'ils font à peu près, c'est de la laisser pendant un an et de partir faire le tour du monde.
Oui, tout à fait. En fait, il se présente une opportunité absolument extraordinaire à la fin 1921. C'est d'aller faire le tour des Dominions. Les Britanniques préparent une grande exposition pour montrer la puissance de leur empire et un ami d'Archibald propose à Archie de le suivre en tant que financier de l'expédition et à Agatha de se joindre à eux. Donc c'est une opportunité extraordinaire de partir Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et entre tout ça, Honolulu.
Où ils font du surf d'ailleurs, c'est des champions de surf.
des champions de surf. Ils vont devenir, Agatha est une des premières femmes britanniques qui fait véritablement du surf. Donc effectivement, elle n'hésite pas. D'abord, sa mère lui a toujours dit qu'il fallait suivre son mari. Donc elle laisse Rosalind à la garde de sa mère et de sa sœur, de Madge. Et ils partent pendant 10 mois faire ce grand tour de l'Empire, qui est une expérience extraordinaire. Et là, on voit comme Agatha est curieuse de tout, intéressée par tout. Elle va se nourrir. Et d'ailleurs, elle va là encore y prendre des idées qui vont alimenter un certain nombre de ses ouvrages, et tout particulièrement L'homme au complet marron, qui est extrêmement inspiré de ce voyage en Afrique du Sud.
Oui. Alors le couple, vous allez nous le raconter, ne fonctionne pas si bien au fur et à mesure des années, à tel point que on va retrouver un petit peu dans ces romans une espèce de tension parfois entre les hommes et les femmes qui forment un couple. Je vous propose d'écouter justement un extrait qui peut peut-être illustrer ça, enfin en tout cas vous allez nous le dire, un extrait de La Métamorphose d'Edward Robinson.
D'un seul mouvement de ses bras puissants, Bill la souleva de terre et la serra sur sa poitrine. Elle gémit doucement et lui donna ses lèvres dans un baiser incandescent. Edward Robinson poussa un soupir, reposa « Quand l'amour est roi » et regarda le métro qui passait devant sa fenêtre. Ce Bill était un homme. Edward Robinson lui enviait ses muscles, son charme brutal et ses élans volcaniques. Il reprit le livre, lut la description de la fière Marquesa Bianca, celle qui embrassait si bien. Sa beauté était si dévastatrice, sa séduction si brûlante que, éperdus d'amour, les hommes les plus forts tombaient à ses pieds désarmés. « Ça, c'est la vraie vie », se disait Édouard. Son regard pétillait d'envie. Existait-il quelque part un monde d'aventures romanesques peuplé de femmes à la beauté ravageuse ? À bien y réfléchir, Édouard ne devait pas se plaindre de son sort. Il avait une belle situation, il était en excellente santé et était fiancé à Maud. Mais la seule évocation de Maud assombrissait son humeur. Il n'aurait jamais voulu l'admettre, mais il en avait peur. Il l'aimait, oh oui, sans contestation possible. Maud était vraiment parfaite, jolie, intelligente. On s'accordait à dire qu'elle ferait une excellente épouse, mais elle voulait toujours avoir raison. Maud et lui seraient très heureux ensemble. Seulement, il lui eût souhaité un peu plus de souplesse, un peu moins de propension à lui faire des reproches. Il en venait à des actes désespérés. Par exemple, un flot de sang lui empourpra le visage. Il fallait qu'il lui dise, le plus tôt possible, il avait un secret. 3 mois auparavant, Edward Robinson avait participé à un banal concours proposé par un journal hebdomadaire et il avait gagné et touché le premier prix, 500 livres. Il était très fier de lui. Mais que faire de cet argent ? Chaque jour, en se rendant à son bureau, il passait devant une vitrine où était exposé un cabriolet à 2 places aux lignes aérodynamiques. « Si j'étais riche, s'était répété Edward, tu serais à moi. » Et maintenant, il était, sinon riche, du moins en possession de la somme lui permettant de réaliser son rêve. Cette voiture, ce bijou étincelant serait sienne s'il le voulait. « Bon sang, j'agirai à ma guise au moins une fois dans ma vie. Maud peut aller se faire pendre !» Le lendemain matin, il avait passé la porte du palais de verre et avec une volonté qui l'avait surpris lui-même, il avait acquis la voiture. « All the rain keeps us up on our... » It trips through cracks and it fuses lights. But the life we used to live was so much sadder than this. Now you're teaching me wrong from right. I am the thorn in your tender side, a convict cast in chains.
Est-ce que ce portrait, un peu en demi-teinte, pour ne pas dire plus, Marie-Hélène Bellac, des relations de couple, peut faire penser un petit peu à ce qui a pu se passer entre Archibald et Agatha Christie.
Oui, alors je pense, l'histoire de la voiture, Agatha raconte qu'à un moment, elle aurait voulu un deuxième enfant, mais que son époux a préféré une voiture, une nouvelle voiture, une belle voiture. Donc c'est un peu ce thème. En fait, oui, très vite, le couple va... s'éloigner l'un de l'autre, parce que d'abord au retour donc de ce voyage, de ce grand tour de l'Empire en 1922, leur situation financière est difficile, donc Archie est nerveux, les choses se passent mal, et puis finalement il retrouve du travail, il finit même par trouver du travail qui l'intéresse dans la finance, et très vite ils mènent leur vie chacun de leur côté, c'est-à-dire que Archie travaille et ensuite il joue au golf. Et alors Agatha devient ce qu'elle appelle une veuve de golf, ce qu'on appelle d'ailleurs toujours une veuve de golf, hein. C'est-à-dire que comme pendant que son mari joue au golf, elle écrit parce que elle sait jouer mais elle n'a pas son niveau. Donc très vite ils ne vont plus sur les mêmes parcours et puis elle arrête. Et il y a une mésentente qui s'installe à l'intérieur du couple jusqu'à ce que finalement, un beau jour. Archie révèle à Agatha qu'il est amoureux d'une autre femme, Nancy Neal.
Oui.
Et là, ça va être terrible.
Et alors là, c'est le fameux épisode de la disparition d'Agatha Christie.
Oui. Alors, un matin de décembre 1926, le 3 décembre, en fait, Agatha disparaît. Oui. Enfin, c'est pas le matin, c'est plutôt le soir, excusez-moi. Donc, en fait, le soir, son mari est parti passer le week-end avec sa maîtresse, hein, c'est évident. Alors qu'elle-même avait préparé un week-end à deux, puisqu'elle essayait de raccrocher les morceaux, hein, si on peut dire. Et donc, elle laisse sa fille aux soins de la nurse, et elle prend sa voiture. Et le lendemain matin, on retrouve sa voiture au bord d'un étang, enfoncée à moitié dans un bosquet. Alors, je ne vais pas tout raconter, parce que je pense que nous n'en avons évidemment pas le temps.
Et puis, parce qu'on ne sait pas non plus exactement ce qui s'est passé.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais enfin, on a un peu plus d'idées qu'à une époque, puisque Agatha et sa famille ont toujours dit que c'était qu'elle avait perdu tout simplement la mémoire, hein, que c'était une amnésie. Et ce qu'on a appris depuis, parce que les langues se sont déliées, notamment par la fille de sa meilleure amie, c'est que sans doute, au départ, Agatha avait peut-être quand même monté un coup. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant dans cette disparition, c'est que justement, je pense qu'à un moment, la vie réelle et l'imaginaire d'Agatha, dans lequel elle vivait en permanence, se sont en quelque sorte croisés, voyez, et que on n'était plus ni dans le vrai, ni dans l'irréel, mais un petit peu à la fois dans les deux.
Elle a monté sa propre énigme alors ?
Voilà, un petit peu, enfin un moment, parce que donc, elle disparaît, pour redire rapidement, pendant 10 jours, et au départ, elle pensait certainement que son mari allait la retrouver rapidement, elle avait semé des indices, c'est le cas de le dire, notamment en déposant une bague à sertir chez Harrods à Londres, et en donnant l'adresse pour qu'on la lui renvoie, en écrivant à son mari, on n'a jamais su le contenu de la lettre, en écrivant à son beau-frère, et puis en réalité, l'affaire a pris des dimensions qu'elle n'avait pas imaginées, c'est-à-dire que c'est devenu une affaire nationale, où on s'est mis à la chercher, où la police a été mobilisée. Pour la première fois, on a utilisé un avion, même pour survoler la zone où elle risquait d'avoir disparu ou d'être morte. Et très vite, s'est posé la question de savoir si c'était un accident, un suicide, un meurtre, et peut-être son mari coupable, ou bien même si elle n'avait pas disparu volontairement pour se faire de la publicité, puisque ça correspondait avec la parution en feuilleton d'un de ses livres, hein, Le meurtre de Roger Ackroyd.
Et quel est votre point de vue, quelle est votre hypothèse à vous ?
Ah, moi, je pense que au départ, c'est un coup monté. Je pense qu'au départ, elle a voulu faire une sorte de chantage en pensant que, il l'a abandonnée. Il partait chez sa maîtresse pendant le week-end et elle espérait qu'il allait la chercher. Mm-hmm. Et puis, en fait, elle a été dépassée par les événements.
Oui. Certaines personnes pensent que Scotland Yard, qui a donc mis de gros moyens pour la rechercher, a en fait exprès de ne pas la retrouver parce que Archie était quand même une sommité dans la finance et puis aussi dans l'armée anglaise, non ?
Oui, il était quelqu'un effectivement de connu. Mais enfin, c'était peut-être pas non plus la solution parce que plus les jours passaient, plus Archie était suspect. Mm-hmm. Hein, quand même. D'ailleurs, il a fallu lui donner quelqu'un pour le garder, hein, lui et Rosaline, parce qu'il a reçu des menaces. Mm-hmm. Donc, sa situation n'était pas facile. Et donc, c'est d'ailleurs aussi pour ça que là, Agatha a complètement manqué son coup, parce que après la disparition, il n'était pas question de rabibochage. Enfin... Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce qu'ils se sont dit quand Archie est venu la retrouver à l'hôtel, où elle s'était quand même inscrite sous le nom de sa maîtresse.
Et oui, alors ça probablement qu'on ne le saura jamais.
Jamais.
Toujours est-il que c'est quand même un grand bouleversement dans la vie d'Agatha Christie, mais qui va quand même entraîner ensuite un nouveau départ avec la rencontre, quelques temps plus tard, d'un certain Max Mallowan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est ce fameux Max Mallowan qui a une quinzaine d'années quand même de moins qu'elle, puisque quand ils se rencontrent, il a 25 ans et elle 40.
Oui. Alors, en fait, Agatha, qui voulait justement se changer les idées après ce divorce auquel elle avait dû consentir vraiment contre son gré, décide d'aller faire un tour aux Antilles. Et puis, lors d'un dîner avec des amis, on lui dit « Mais non, il faut aller en Orient, en ce moment, à Our, en Mésopotamie, il y a des fouilles absolument extraordinaires », ce qui était vrai, hein, c'est la grande période des découvertes. Et elle décide de partir toute seule, 6000 kilomètres. Donc d'abord, elle prend l'Orient Express, alors qui est un train de rêve, et donc elle a toujours rêvé. Et puis ensuite, il y aura le Taurus Express qui est encore bien, mais après, on continue avec un autocar à 6 roues qui traverse le désert. Donc c'est quand même une épopée absolument extraordinaire. Et là, à Our, non pas lors de son premier voyage, mais le suivant, elle rencontre dans l'équipe des boulets, qui fouille le site, elle rencontre un jeune homme, effectivement, qui s'appelle Max Mallowan. Ils vont, qui est un petit peu l'homme à tout faire, enfin, quand je dis il est l'homme à tout faire, c'est-à-dire que non seulement il s'occupe des fouilles, mais il reçoit les invités, il emballe les objets, il coiffe Catherine, la femme de Woolley, il fait beaucoup de choses et donc on lui demande de promener, d'emmener Agatha visiter un certain nombre de sites. Et c'est ce qui va se passer et donc on est au mois de mars 1930 et au mois de septembre, eh bien, ils se marient. Donc c'est un mariage extrêmement rapide. Madge n'a pas voulu assister au mariage en disant que Max épousait Agatha par intérêt, parce qu'Agatha était déjà une femme connue.
Bon, évidemment, ça fait un petit peu scandale. Il y a la différence d'âge et puis ils n'ont pas exactement la même religion puisqu'elle était anglicane et
oui,
lui est catholique. Je vous propose d'écouter justement la voix de Max Mallowan.
Elle était très intéressée par le travail des archéologues. Quand je suis allée à Nimrud, la grande capitale militaire de l'Assyrie, elle passait ses matinées dans une petite pièce qu'on lui avait construite, et le reste de la journée, elle se consacrait à la réparation et au nettoyage des objets découverts. Elle était très habile de ses doigts, elle se débrouillait vraiment bien. Elle adorait laver les ivoires, par exemple. On avait la plus grande collection au monde.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Donc avec ce deuxième mari, Marie-Hélène Bellac, au contraire du premier, c'est une espèce de fusion intellectuelle qui va durer toute la vie de l'un comme de l'autre. Elle se passionne pour l'archéologie, elle a vraiment trouvé l'amour de sa vie.
Alors désormais, effectivement, elle partage sa vie entre l'Angleterre et les champs de fouilles du Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'elle est très amoureuse de Max et puis elle ne veut pas perdre ce deuxième mari. Donc elle va tout faire pour le bonheur de Max. C'est une femme dévouée, elle mène sa vie, elle écrit ses romans policiers. D'ailleurs, la plupart de ses romans, à partir de ce moment-là, elle les écrit sur les champs de fouilles. Au fond, il lui suffit d'une table, d'une chaise et d'une machine à écrire. Et il n'y a que dans la dernière maison de fouilles, que dans l'extrait que vous avez passé, Max évoquait, c'est-à-dire à Nimrud, qu'elle aura une toute petite pièce à elle, Beit Agatha, le bureau d'Agatha. Mm-hmm. Mais sinon, elle écrit à l'hôtel, elle écrit absolument n'importe où.
Et puis elle prend partout des notes et ça donne des romans comme Meurtre en Mésopotamie, Mort sur le Nil ou Rendez-vous à Bagdad.
Oui, tout à fait. Où elle s'inspire de ce qu'elle voit sur les champs de fouilles et dans le monde aussi de l'archéologie, notamment Meurtre en Mésopotamie, est très calqué sur ce qu'elle a vécu à Our, et notamment l'héroïne emprunte beaucoup à Catherine Roumoulet. Donc, elle se passionne pour l'archéologie, et c'est vrai, là aussi, dans l'extrait que vous avez passé, que Max parle de sa capacité à recoller les morceaux, elle réussit vraiment des tours de force. Elle dit en plus que ça ressemblait à un travail de puzzle comme exactement les romans, donc ça l'intéresse. Et puis aussi, elle est très douée pour restaurer tout ce qui est en ivoire. Elle réussit notamment, elle a l'idée de ne pas les mettre directement au contact de l'air, mais de les envelopper de linge humide et de les sortir peu à peu. Elle fait aussi pendant très longtemps la photo sur les sites. Elle photographie les pièces sur le site, ce qui est un travail extrêmement important pour les archéologues.
Donc ces années 30-40, elles sont très importantes aussi sur le plan de la création littéraire. Il y a la plupart de ses livres les plus connus qui voient le jour à ce moment-là, Le Crime de l'Orient Express en 1934, Dix Petits Nègres, aujourd'hui rebaptisé Ils étaient 10 en 1939, qui est d'ailleurs sans doute le roman policier le plus vendu au monde. Oui. Ce qui nous amène au seuil de la guerre. On arrive bientôt à la fin de cette émission. La Seconde Guerre mondiale va l'accueillir à nouveau. Max s'engage dans la défense civile et puis elle s'engage dans le savoir pharmaceutique, comme au cours de la Première Guerre mondiale, au service de l'hôpital de Torquay et puis ensuite de l'University College Hospital de Londres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période de la Seconde Guerre mondiale pour eux deux ?
Alors cette période de la Seconde Guerre mondiale, alors commençons par Max. Pour Max, le début est très difficile parce qu'il ne trouve aucun moyen de s'engager, d'autant qu'il a un père autrichien, donc c'est pas bon. Mais finalement, il va être envoyé au Caire et puis en Tripolitaine, et cette Seconde Guerre mondiale, il la vit plutôt dans des conditions même parfois agréables. Au contraire, pour Agatha, c'est une période extrêmement dure parce qu'elle est seule, parce que donc finalement, elle finit par s'installer à Londres où elle partage son temps entre l'hôpital et puis la création littéraire. Elle écrit beaucoup pendant toute cette période.
Vous avez parlé de plus en plus de théâtre aussi.
Oui, voilà. Elle commence à vraiment
après la Seconde Guerre aussi et jusqu'à la fin de sa vie.
Oui. Et elle adapte les Dix Petits Nègres justement au théâtre pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Elle écrit aussi, c'est le moment où elle écrit La Romancière et l'Archéologue, où elle raconte justement sa vie sur les champs de fouilles. Donc elle souffre de l'absence de son mari. Elle souffre du manque de l'Orient, parce que elle a pris goût à l'Orient, et d'ailleurs après la guerre, elle et Max n'auront qu'une idée, c'est de remettre les choses en place de façon à pouvoir à nouveau fouiller.
Oui, c'est vraiment son bol d'oxygène, c'est ce que vous dites au sujet de l'Orient dans aussi les dernières décennies de sa vie, puisqu'elle meurt en 1976, le 12 janvier. Exactement, dans sa résidence de Wallingford, près d'Oxford. Son décès fait la une des journaux du monde entier. Et alors sur sa tombe, elle a demandé que soient inscrits ses vers d'Edmund Spenser, un poète élisabétain. Tant de repos après tant de labeur, le premier temps s'écrit T-E-M-P-S et le deuxième T-A-N-T. Havre de paix après jour de tempête, ô douce mort après notre âpre vivre, trêve bénie succédant à la guerre, Dieu prend mon âme en sa joie infinie. En quelques secondes, c'est quand même des mots en demi-teinte pour qualifier sa vie. Marie-Hélène Bellac.
Oui, bien sûr, mais on n'a pas pu parler de beaucoup de choses, j'aurais voulu parler. Mais
très c'est vrai qu'elle arrive à la fin.
Elle a eu une vie difficile par certains côtés, mais en même temps, notamment les problèmes avec le fisc, les problèmes avec sa fille, cette nécessité de tenir son mari qui sans doute l'a trompée à un moment de sa vie. Il faut quand même pas oublier que dans les dernières semaines, la maîtresse était là pour aider Max, mais même si elle l'admettait, c'était dur. Mais en même temps, elle a su aussi prendre de la vie tout ce qu'il y avait de bon. Moi, je suis extrêmement admirative d'Agatha Christie.
Et nous aussi, on en parlera toute la semaine. Merci beaucoup Marie-Hélène Bellac. Pour aller plus loin, on peut bien sûr se reporter à votre biographie d'Agatha Christie, publiée aux éditions Perrin en avril 2019. La Compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet, Clément Daté